Frankenstein. Chapitre 3. Depuis ce jour, je me livrais presque exclusivement à l'étude de la philosophie naturelle, et surtout de l'alchimie, dans le sens le plus étendu de ce mot. Je lus avec ardeur les ouvrages qui ont été composés sur cette science par les observateurs modernes, et où brille à un haut degré leur génie et leur discernement. Je suivis les cours, je fréquentais les savants de l'université, et je reconnus même en M. Krumpe beaucoup de bon sens et un vrai savoir, joint, il est vrai, à une physionomie et à des manières repoussantes, mais qui ne diminuait pas le mérite de ses connaissances. Je trouvais un véritable ami dans M. Waldman. Sa douceur n'était jamais altérée par un ton tranchant. Il donnait ses leçons avec un air de franchise et de bonté qui éloignait toute idée de pédanterie. Ce fut peut-être l'aimable caractère de cet homme qui m'entraîna le plus vers la partie de la philosophie naturelle qu'il enseignait, qu'un goût intime pour la science même. Mais cette disposition d'esprit ne dura que dans les premiers moments de mes études, car plus je pénétrais dans la science, et plus je la poursuivais exclusivement pour elle-même. Cette application, qui d'abord avait été un devoir et un ordre, devint alors si ardente et si vive que souvent les étoiles avaient disparu devant la clarté du matin que j'étais encore à travailler dans mon laboratoire. Avec une application aussi opiniâtre, il est facile de concevoir que je fis de rapides progrès. Mon ardeur faisait l'étonnement des étudiants et mes succès celui des maîtres. Le professeur Krumpe me demandait souvent, avec un sourire moqueur, comment allait Cornelius Agrippa, tandis que M. Waldman se réjouissait hautement de mes progrès. 2 ans se passèrent ainsi, sans que j'allasse à Genève. J'étais attaché de cœur et d'âme à la poursuite de quelques découvertes que je désirais faire. Il n'y a que ceux qui en ont fait l'épreuve qui puissent comprendre les attraits de la science. Dans des études quelconques, on peut atteindre ceux qui nous ont précédés, mais on ne peut guère les surpasser. Dans l'étude des sciences, au contraire, il y a un aliment continuel pour les découvertes et des sujets toujours nouveaux d'étonnement. Un esprit d'une capacité ordinaire qui se renferme strictement dans une seule étude doit infailliblement y faire de grands progrès. J'avais constamment cherché à atteindre l'objet que j'avais en vue. Je n'étais uniquement occupé que de cet objet. Aussi je me signalais par des progrès si rapides que 2 ans après, je fis plusieurs découvertes pour perfectionner quelques instruments d'alchimie, et qui me valut beaucoup d'estime et de considération dans l'université. Parvenu à ce point et devenu aussi habile dans la théorie et dans la pratique de la philosophie naturelle qu'il dépendait des professeurs d'Ingolstadt, je jugeais que ma résidence dans cette ville n'était plus nécessaire à mes progrès. Je pensais à retourner au milieu de mes amis et dans ma ville natale, lorsqu'un événement m'obligea de rester. Un des phénomènes qui avait particulièrement attiré mon attention était la structure du corps humain, et même de tout être animé. Je me demandais même souvent d'où pouvait procéder le principe de la vie. Cette question était hardie. C'était même un mystère aux yeux du monde. Et cependant, que de choses nous pourrions apprendre si la lâcheté ou l'insouciance n'arrêtaient pas nos recherches. Ces pensées s'agitèrent dans mon esprit et me déterminèrent à étudier désormais plus particulièrement les parties de la philosophie naturelle qui ont rapport à la physiologie. Sans un enthousiasme presque surnaturel, mon application à cette étude eût été pleine de dégoût et presque insupportable. Pour examiner les causes de la vie, nous devons d'abord avoir recours à la mort. J'appris l'anatomie, mais cette science ne suffisait pas. Il fallut aussi que j'observasse la décomposition naturelle et la corruption du corps humain. En m'élevant, mon père avait pris les plus grandes précautions pour qu'on ne remplît pas mon esprit d'horreur surnaturelle. Je ne me souviens pas d'avoir jamais frissonné au récit d'un conte superstitieux ou d'avoir eu peur de l'apparition d'un fantôme. L'obscurité ne faisant aucun effet sur mon imagination, et un cimetière n'était pour moi que le réceptacle des corps privés de la vie, qui, après avoir été le siège de la beauté et de la force, était devenu la pâture des vers. Je me mis à examiner la cause et les progrès de cette décomposition, et je fus forcé de passer des jours et des nuits au milieu des tombeaux et dans des charniers. Je portais mon attention sur tous les objets les plus désagréables et la délicatesse des sensations humaines. J'examinai combien la belle forme de l'homme était dégradée et ravagée. Je vis la corruption de la mort remplacer l'éclat d'un visage animé et les vers hérités des merveilles de l'œil et du cerveau. Je m'arrêtai à observer et à analyser toutes les minuties de notre être, dévoilées dans le passage de la vie à la mort, lorsque, du milieu de cette obscurité, une lumière soudaine vint éclairer mon esprit. Elle était si brillante, si merveilleuse et pourtant si naturelle, que je fus à la fois ébloui par l'immense clarté qu'elle répandait et surpris que parmi tant d'hommes de génie dont les recherches avaient eu pour but la même science, je fusse le seul destiné à découvrir cet étonnant secret. Rappelez-vous que je ne rapporte pas la vision d'un fou. Ce que j'affirme est aussi vrai que le soleil brille dans les cieux. Que ce soit par un miracle, il n'en est pas moins vrai que les progrès de la découverte sont distincts et probables. Après des jours et des nuits d'un travail et d'une fatigue incroyables, je parvins à connaître la cause de la génération et de la vie. Je devins même capable d'animer une matière inerte. L'étonnement où me jeta cette découverte fit bientôt place au plaisir et au ravissement. Après avoir consumé tant de temps à des travaux pénibles, n'était-ce pas pour moi la récompense la plus douce que d'arriver enfin au terme de mes désirs? Mais cette découverte était si grande et si élevée que tous les degrés par lesquels j'y avais été progressivement conduit furent oubliés. Je ne vis que le résultat. Ce qui, depuis la création du monde, avait été l'objet des études et des désirs des hommes les plus sages, était maintenant en mon pouvoir. Tout se présentait à moi comme une scène magique. Le résultat que j'avais obtenu était de nature plutôt à diriger mes efforts dès que je les tournerais vers l'objet de mes recherches, qu'à me l'offrir sur le champ. J'étais comme l'arabe qui avait été enseveli parmi les morts et qui trouva un passage à la vie, guidé seulement par une lueur qui semblait ne devoir pas lui prêter ce secours. Mon ami, je vois à votre impatience, à l'étonnement et à l'espoir qu'expriment vos yeux, que vous vous attendez à ce que je vous instruise du secret de ma découverte. Cela ne se peut. Écoutez patiemment la fin de mon histoire et vous verrez facilement pourquoi je me renferme dans le silence. Imprévoyant et ardent comme je l'étais alors, je ne vous conduirai pas à votre perte et à un malheur infaillible. Apprenez de moi, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien la science est dangereuse. Soyez-en certain, l'homme qui croit que sa ville natale est le monde est plus heureux que celui qui aspire à s'élever plus qu'il ne peut prétendre. Maître d'un pouvoir si étonnant, j'hésitais longtemps sur l'usage que j'en ferais. J'avais, il est vrai, la faculté d'animer, mais il restait encore un ouvrage d'une difficulté et d'une peine inconcevable. C'était de préparer un corps destiné à recevoir la vie avec toutes ses combinaisons de fibres, de muscles et de veines. J'hésitais d'abord si j'essaierais de créer un être semblable à moi-même ou d'une organisation plus simple. Mais mon imagination était trop exaltée par mon premier succès pour que je mis sans doute mon habileté à donner la vie à un être aussi compliqué et aussi merveilleux que l'homme. Les matériaux dont je pouvais disposer me parurent à peine suffisants pour une entreprise aussi hardie, mais je ne doutais pas que je ne finisse par réussir. Je me préparais à une multitude de revers. Il était possible que mes opérations fussent sans succès, et enfin que mon ouvrage fût imparfait. Cependant, en réfléchissant au progrès qu'on faisait tous les jours dans la science et dans la mécanique, je me flattais que mes essais seraient, du moins, la base d'un prochain succès, et je ne pouvais croire que mon plan fût impraticable, par cela même qu'il était grand et compliqué. Ce fut dans ces dispositions que je commençai à créer un être humain. Comme la petitesse des parties formait une grande difficulté, je crus pouvoir accélérer mon ouvrage en prenant la résolution, contraire à mes premières intentions, de le faire d'une stature gigantesque, c'est-à-dire d'environ 8 pieds de hauteur et d'une grosseur proportionnée. Cette détermination prise, je m'occupai pendant plusieurs mois à rassembler et à arranger avec succès mes matériaux. Enfin, je me mis à l'ouvrage. On ne saurait imaginer la variété des sentiments qui m'agitaient comme une tempête dans le premier enthousiasme de mon heureuse entreprise. La vie et la mort me parurent des limites idéales. J'allais bientôt les franchir. J'allais verser un torrent de lumière sur l'obscurité du monde. Une nouvelle génération me bénirait comme son créateur et sa source. Une foule d'êtres heureux et excellents me devrait leur existence. Aucun père ne pourrait réclamer la reconnaissance de son enfant autant que je mériterais la sienne. En poursuivant ces réflexions, je pensais que, si je pouvais animer une matière inerte, je pourrais, avec le temps, quoique je le regardasse alors comme impossible, rendre la vie à un corps que la mort semblait avoir destiné à la corruption. Ces idées soutenaient mon courage, pendant que je poursuivais sans relâche mon entreprise. Mes joues étaient devenues pâles par l'étude, et mon corps s'amaigrissait par le défaut de nourriture. Quelquefois, je pensais être parvenu au but, et j'échouais, mais je ne désespérais pas qu'au premier jour ou au premier moment, mes espérances ne fussent réalisées. Le désir de posséder seul un pareil secret me dominait entièrement. La lune éclairait mes opérations nocturnes pendant que je poursuivais la nature jusque dans ses retraites les plus cachées avec une ardeur sans relâche. Qui pourra concevoir l'horreur de mes travaux secrets lorsque je profanais les tombeaux ou que je torturais l'animal vivant pour animer un froid argile? Mes membres en tremblent encore. Tout est encore présent à mes yeux. Mais alors, j'étais entraîné par une impulsion irrésistible et presque fanatique. Il me semblait n'avoir plus d'âme ou de sensation que pour la poursuite de cet objet. Ce n'était, il est vrai, qu'un enthousiasme passager qui pouvait seulement contribuer à me faire sentir avec une nouvelle force dès que l'aiguillon surnaturel cesserait d'agir, que je retournerais à mes anciennes habitudes. Je ramassais des os dans les charniers et de mes doigts profanes, je troublais les secrets effroyables du tombeau. Enfermé dans une chambre, ou plutôt dans une cellule solitaire de la partie la plus élevée de la maison, et séparé de tous les autres appartements par une galerie et par un escalier, je me livrais au travail d'une création pleine de dégoût. Mes yeux sortaient de leur orbite pour suivre les détails de mes occupations. La salle de dissection et la tuerie me fournissaient un grand nombre de matériaux. Souvent, je me détournais avec horreur de mes travaux, lorsque, excité encore par une ardeur toujours croissante, j'étais prêt d'achever mon ouvrage. L'été se passa. La saison était magnifique. Jamais moisson plus abondante ne couvrit les champs. Jamais vendanges ne furent plus riches. Mais j'étais insensible au charme de la nature, et les mêmes pensées qui me firent négliger les scènes qui se passaient autour de moi me firent aussi oublier ces amis qui étaient éloignés de tant de lieux et que je n'avais pas vus depuis si longtemps. Je savais que mon silence les inquiétait. Je me rappelais mot pour mot ce que m'avait dit mon père. « Tant que vous serez satisfait de vous-même, vous penserez à nous avec affection et nous recevrons régulièrement de vos nouvelles. » Ne me blâmez pas si je regarde toute interruption dans votre correspondance comme une preuve que vos autres devoirs sont également négligés. Ainsi, je connaissais bien quelle devait être l'opinion de mon père, et pourtant je ne pouvais m'arracher à des occupations repoussantes en elles-mêmes, mais dont le pouvoir sur moi était insurmontable. Je remis alors tout ce qui avait rapport à mes sentiments d'affection jusqu'à ce que j'eusse accompli le grand œuvre qui me détournait de toutes les habitudes de ma vie. Je pensais que mon père serait injuste s'il attribuait ma négligence à mes défauts ou à mes vices. Maintenant, je suis convaincu qu'il avait raison de penser que ma conduite n'était pas exempte de blâme. Un homme parfait doit toujours maintenir son esprit dans le calme et dans la paix. Sa tranquillité ne doit jamais être troublée par une passion ou par un goût passager. Je ne crois pas que l'étude même soit une exception à cette règle. Si l'étude à laquelle on s'applique doit affaiblir les affections et ôter le goût de ces plaisirs simples dans lesquels on ne peut éprouver aucune altération, alors cette étude est sans aucun doute illégitime, c'est-à-dire qu'elle ne convient pas à l'esprit humain. Si cette règle était toujours observée, si l'homme ne laissait aucune passion altérer le charme paisible de ses affections domestiques, la Grèce n'eût pas été réduite en esclavage. César n'eût pas immolé son pays. L'Amérique n'eût pas été découverte et les empires du Mexique et du Pérou n'auraient pas été détruits. Mais que fais-je ? Je moralise au moment le plus intéressant de mon histoire, tandis que je lis dans vos regards l'invitation de continuer. Mon père ne me faisait aucun reproche dans ses lettres. Seulement mon silence l'engagea à s'informer de mes occupations, plus particulièrement qu'il ne l'avait fait jusque-là. L'hiver, le printemps et l'été s'écoulèrent pendant mes travaux sans que je fisse attention à l'apparition successive des fleurs ou des feuilles, qui autrefois me faisaient toujours éprouver le plus doux plaisir, tant j'étais plongé dans mon entreprise. Les vacances de cette année s'écoulèrent avant que mon ouvrage ne fût prêt d'être achevé. Je voyais alors chaque jour plus clairement combien j'avais réussi. Mais mon enthousiasme était réprimé par mon inquiétude, et j'avais plutôt l'air d'un homme condamné à travailler aux mines ou à tout autre objet malsain que d'un artiste au milieu de ses occupations favorites. Toutes les nuits, j'étais tourmenté d'une fièvre lente. Je reconnus enfin que mon système nerveux était fortement attaqué. J'en éprouvais un grand chagrin, parce que j'avais jusqu'alors joui de la meilleure santé, et que je m'étais toujours vanté de la force de mes nerfs. Mais je croyais que l'exercice et l'amusement dissiperaient bientôt de pareils symptômes, et je me promettais de m'y livrer dès que ma création serait terminée.